Hello, everyone. It's a pleasure to be here with you today at PSP Investments' annual public meeting.
D'être avec vous aujourd'hui. Je suis Martin Glenn. Je suis de Vancouver. Je suis le président du conseil de PSP Investissement. Good day, everyone. It gives me great pleasure to be with you today. J'aimerais commencer en exprimant ma gratitude à la nation algonquine, Anishinaabe. Nous nous retrouvons sur un territoire non cédé aujourd'hui de cette nation. Cette réunion est traduite et également, c'est offert de façon virtuelle partout au Canada. Donc, on va réfléchir ensemble à cette histoire qui nous a conduits vers ce territoire et sur l'importance de la réconciliation. Je suis très chanceux puisqu'aujourd'hui, je vais vous faire une présentation avec Deborah, la nouvelle présidente des PTG. Également, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-François Bureau, vice-président senior, responsable en chef des finances, Patrick Sanson, vice-président senior, responsable de Real Assets, et Edward Van Gelderen, vice-président senior, et Delory Fernando, directeur à la tête de citoyenneté corporative. Cette réunion annuelle est l'opportunité de partager les résultats des investissements de PSP. Donc, pour l'année fiscale 2022, les faits saillants du 1er avril 2021 au mois de mars 2022. Et c'est une occasion pour vous, nos parties prenantes, les parties intéressées, les membres du public, c'est une opportunité pour vous de nous poser des questions. Alors, la séance de questions-réponses prendra fin à la fin de cette présentation. Alors, on peut commencer. Vous pouvez présenter vos questions en utilisant le clavardoir afin de démarrer la période de questions après cette présentation. Alors, j'aimerais tous vous rappeler quel est le mandat de PSP. Le mandat de PSP, c'est de gérer les argents qui lui sont présentés par le gouvernement du Canada pour le financement des avantages à partir du 1er avril. Et donc, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Québec, et donc, et puis des forces de réserve. PSP gère des quantités transférées dans le meilleur intérêt de ceux qui contribuent, les bénéficiaires, et investit des actifs afin d'obtenir un taux maximal de rendement sans qu'il y ait de pertes. Et il y a les politiques, les exigences, les fonds de pension et les capacités que ces fonds ont de satisfaire les obligations. Nous sommes fiers de servir les gens qui ont consacré leur carrière à aider à servir notre pays. C'est un privilège qui est le nôtre et c'est très important pour nous. Notre cadre est créé par le Conseil et la loi. Le gouvernement du Canada est responsable de la politique de financement et on détermine la tolérance pour les risques relativement aux fonds de pension. Et on nomme 11, ainsi que des membres du comité de nomination qui recommande de nouveaux membres, ainsi que les rapports pour le Parlement. PSP a une relation avec le gouvernement du Canada, mais c'est indépendant. PSP est le seul responsable de prendre les décisions d'investissement sans directive du gouvernement. PSP est guidé par le conseil d'administration dont je suis le président. PSP et ses directeurs sont nommés selon leur expertise professionnelle et leur expérience, ainsi que leur capacité à guider l'organisation. Aucun des membres de PSP, ce qui nous assure que les membres du Conseil nous apportent une perspective indépendante relativement aux dossiers qui sont considérés. Le Conseil d'administration responsable d'offrir une surveillance et de guider PSP pour s'assurer que l'organisation puisse bien gérer la croissance et continuer à satisfaire ses mandats. Le Conseil d'administration s'implique afin de déterminer la direction stratégique de l'organisation est responsable de la surveillance et de la gestion des risques. Le conseil est également responsable du choix, de l'évaluation des performances et de la compensation du président et PDG qui se rapportent au conseil d'administration. Le conseil se réunit au moins 6 fois par année pour réviser les activités de PSP et ses stratégies. Les comités du conseil se réunissent plus fréquemment. PSP et les membres du conseil, vous voyez les photos à l'écran, se sont consacrés en consacrant beaucoup de temps pour la réussite à long terme de PSP. La planification successorale, c'était un élément clé pour l'année fiscale 2022. Nous sommes très heureux de voir nos membres ici. Nous voulons remercier ceux qui ont donné leur service. PSP a pu bénéficier de l'engagement de ceux qui sont consacrés, de leur guide. Les candidats du Conseil sont choisis selon une liste de résidents canadiens qualifiés, telle que proposée par un comité de nomination externe établi par le président du Conseil du Trésor. Et c'est le gouverneur en conseil qui émet ces recommandations et sous la recommandation du Conseil du Trésor. Durant la dernière année fiscale, j'ai été heureux de donner la bienvenue à trois nouveaux directeurs sur le conseil de PSP, Gregory Crispin, Helen Mallovy-Hicks et Maurice Cullen. Et je suis heureux de vous dire que Miranda C. Hobbs a été renommée pour un mandat de 4 ans. Et finalement, je suis plus qu'heureux de savoir que j'ai été renommé comme président pour un autre mandat de 2 ans. Et également, je suis heureux de vous faire savoir que le conseil de PSP se compose de 6 femmes et de 4 hommes. Et les comités permanents, il y en a 4, sont présidés par les femmes durant l'année fiscale actuelle. Nous avons un poste vacant qui sera comblé le moment venu. Laissez-moi partager quelques éléments clés du travail du conseil durant l'année fiscale. D'abord, il y a eu le défi de la pandémie et je suis fier de l'esprit d'équipe, de la diligence, de la résilience démontrée par PSP durant toute l'épreuve et la crise du COVID. Les cadres ont très bien fait pour bien guider l'organisation alors que les moments étaient très troubles, tout en saisissant les opportunités de faire progresser les intérêts de PSP. Deuxièmement, l'année fiscale 2022, c'était l'année inaugurale pour la nouvelle stratégie PSP Forward de PSP. Le Conseil s'est impliqué pour activement développer cette stratégie. L'année fiscale 2022 nous a donné l'occasion de surveiller sa mise en œuvre et d'évaluer son impact initial. Une autre priorité pour le Conseil, c'est toute la transition de l'économie telle que requise par le changement climatique et les défis et opportunités que cela représente pour PSP. Alors, PSP a dévoilé sa première stratégie climatique au mois d'avril 2022. C'est sa réponse et nous aurons l'occasion d'apprendre davantage relativement à cette stratégie dans quelques instants et de notre nouveau président et PDG qui est avec nous aujourd'hui. Nous voulons donner la bienvenue à Déborah Kay-Orida. Déborah a beaucoup d'expérience approfondie au niveau de la finance pour les actifs réels. Les investissements privés, les capitaux propres, etc., et le niveau bancaire. Déborah a une perspective globale puisqu'elle est à la tête de plusieurs équipes à New York, Hong Kong, etc. Elle a été plus récemment directrice senior et responsable chef de la durabilité au Conseil canadien des plans de pension. Et donc, elle est très inspirante, c'est un leader. Déborah est très bien placée pour conduire PSP vers son prochain niveau de croissance. Nous avons très hâte de pouvoir travailler avec Déborah dans son nouveau rôle chez PSP. Également, j'aimerais remercier Neil Cunningham. Merci pour toute sa contribution. Il nous a aidés à bien forger PSP afin que PSP puisse devenir l'organisation solide qu'elle est devenue. Et il y a une transition depuis le mois de septembre. Donc, on parle de vice-présidence et va aider au processus de transition jusqu'à sa retraite en 2023, au mois de mars. Merci beaucoup. Et Deborah, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. We are very pleased to be here in Ottawa. Thank you very much to be with us today. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais d'abord reconnaître l'impact de l'ouragan Fiona pour l'Est du Canada. C'est vraiment effarant de voir la perte de vie, la dévastation créée par ce désastre naturel. Nous pensons bien sûr à ceux qui ont subi ces ravages et nous voulons saluer le courage des militaires et des premiers répondants. Je suis très honoré de me joindre à vous en tant que nouvelle présidente et PDG de PSP. C'est un grand privilège d'être à la tête d'un des gestionnaires en investissement de pension canadien les plus grands. I'm very happy to work with the board of directors and the exceptional team of PSP. Sur notre personnel, j'ai travaillé dans plusieurs régions du monde. Je suis né et j'ai grandi au Canada. Je suis honoré d'appuyer les plans de pension de ceux qui ont servi notre pays. C'est un grand privilège de pouvoir contribuer à la sécurité financière de ces importants Canadiens. Maintenant, parlons des faits saillants relativement à la performance de PSP pour l'année fiscale 2022. Le 9 juin 2022, nous avons publié le rapport annuel 2022, qui s'appelle en anglais Investing for a Better Tomorrow. Ce rapport est disponible sur notre site web et je vous invite à le consulter. Notre rapport annuel contient nos résultats financiers annuels, des faits saillants de notre stratégie corporative, PSP Forward. On va mettre l'accent sur les investissements les plus importants. On va réviser notre approche relativement aux investissements responsables. Notre nouvelle stratégie climatique s'y trouve, ainsi que des faits saillants relativement à notre personnel, incluant des notions d'équité, d'inclusion et de diversité. Et notre approche en ce sens, je vais parler d'abord de nos résultats financiers. On va parler du fonds total et des catégories d'actifs. Au total, PSP a livré une performance qui va au-delà du benchmark pour l'année fiscale 2022. Au niveau du fonds total, comme vous pouvez le voir à partir de la barre en bleu à gauche, PSP a affiché un rendement d'un an de 10,9% pour l'année 22, l'année financière 2022. Nous créons un revenu net très fort alors que les marchés se rétablissent. On parle d'actifs sous gestion de 230 000,5 B à la fin de l'année fiscale. Et donc, si on se compare à la fin de l'année fiscale 2021, on était à 204,5 B. En termes de performance à long terme, nos rendements annualisés sur 5 ans, représentés par les barres ici au milieu de la diapo, étaient de 9% en comparaison à 7% pour le rendement du portefeuille de référence. Notre rendement annualisé de 10 ans était à 9,8% en comparaison au rendement du portefeuille de référence sur 10 ans, qui est à 8,4%, continue à bâtir une organisation qui est capable de gérer un portefeuille plus vaste pour le long terme. Maintenant, un survol des catégories d'actifs. On y va en profondeur. Nous commençons par les marchés en capital. 99,9 B en actifs sous gestion. Donc, on parle de Capital Markets, qui est notre catégorie d'actifs la plus vaste, composée de titres du marché public et de revenus fixes. On a eu un portefeuille positif, ce qui a mené à une croissance. Nous avons eu des déploiements également avec de nouvelles stratégies pour compenser la réduction de l'exposition sur les marchés publics. Et donc, les marchés capitaux ont livré un rendement de 7,4% sur 5 ans de façon annualisée et un rendement de 3% sur un an. Pour les titres du marché public, il y a eu les variants de la COVID-19, l'inflation, les défis de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Fédération russe et les marchés globaux au niveau des titres ont été résilients malgré la volatilité. Alors, les placements privés, on a 35,4 B en termes d'actifs sous gestion, donc on a réussi un rendement annualisé sur 5 ans de 17,6% et 27,6% sur un an en termes de rendement. Le portefeuille a atteint les 8,6 milliards. Les nouveaux co-investissements également ont été faits, surtout en technologie des États-Unis et pour les secteurs de santé. Les investissements en crédit, 21,9 B d'actifs sous gestion. Investissements de crédit ont généré un taux sur un an de rendement de 7,5% et le rendement annualisé sur 5 ans était de 7,9%. Le changement net au niveau de l'actif sélection était de 7,4 milliards, ce qui était mu surtout par des niveaux records d'activité par les sponsors en titres privés. Alors, ce qui a contribué beaucoup au rendement absolu, c'était ce que nous avons obtenu en termes de revenus d'intérêt brut. Et pour l'immobilier, avec des actifs sous gestion de 31,1 milliards, l'immobilier a généré un rendement sur un an de 24,8% et sur 5 ans annualisé 8,7%. On a parlé bien sûr de résultats grâce à des acquisitions clés au niveau logistique. Différents secteurs ont été impliqués, comme le secteur industriel, manufacturier, résidentiel, les sciences de la vie et studios. 13,9%, c'est le rendement sur un an généré par les infrastructures, alors que les actifs sous gestion sont de 23,5 milliards. Donc, on parle de rendement annualisé 5 ans, 10,4%. Le revenu du portefeuille a atteint 2,7 milliards pour l'année fiscale actuelle. On a déployé une infrastructure de 4,8 milliards de dollars en capital cette année directement et en co-investissement, et également des investissements du fonds, 1,3 milliard de nouveaux investissements dans la transition énergétique, dans le secteur du transport en particulier, sous-secteur en Europe, en Océanie, etc. Les ressources naturelles, 11,6 milliards d'actifs sous gestion nette, un taux de rendement annualisé de 15,9 % et taux de rendement annualisé 8,5 %. L'année fiscale 2022 a été marquée par un déploiement continu très fort de 1,9 milliard de dollars, surtout en Océanie et aux États-Unis, dans le secteur de l'agriculture également pour le bois d'œuvre, et des gains d'évaluation de 1,3 milliard. Les résultats positifs reflètent l'horizon pour le long terme des investissements, une performance opérationnelle très forte, des évaluations d'actifs accrétives, des assets Timberland et des investissements en agriculture. Durant l'année 2022, nous avons montré qu'il y avait une performance très solide en dépit des événements significatifs, la pandémie mondiale, l'inflation et le conflit en Ukraine, notamment. Nous ne savons pas que sera l'avenir, bien sûr, mais nous avons pleine confiance dans notre approche d'investissement. Cela va nous aider à naviguer dans les développements du marché à venir et nous obtiendrons de bons résultats pour nos objectifs, ce qui va créer une bonne approche pour le long terme, ce qui nous protégera également grâce à un portefeuille bien diversifié. Je vais réviser d'autres éléments des faits saillants très importants relativement à la dernière année fiscale. PSP Forward, notre stratégie corporative, l'année fiscale 2022 a marqué la première année de mise en œuvre de notre stratégie corporative en tant qu'entreprise. Notre stratégie nous guide pour savoir comment livrer notre mandat relativement à tous nos positionnements compétitifs dans un paysage d'investissement de plus en plus dynamique. Notre vision sous PSP Forward, c'est d'être un investisseur mondial avisé, un partenaire qui est très sélectif dans tous ses marchés et qui met l'accent sur le long terme. Nous avons fait des progrès relativement aux trois piliers stratégiques de PSP Forward, c'est-à-dire premièrement Global Fund First, d'abord le fonds mondial, ensuite Insight Driven, nous sommes mus par nos informations, et une équipe de grande performance, troisièmement. Pour l'année 2023, nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie en mettant l'accent sur notre performance de fonds total, un investissement durable. Nous avons continué à mettre l'accent sur les équipes qui ont une très bonne performance. Et donc, des faits saillants corporatifs. Alors, notre stratégie portefeuille, entre autres, au mois de février 2022, sous le cadre PSP Greenbound, nous avons financé des projets qui démontrent, grâce au Green Bond, des éléments très positifs au niveau climatique. C'est au mois de février 2022, sous le PSP Green Bond Framework, que nous avons émis donc, ce titre de, en dollars canadiens, 1,0 milliard sur 10 ans, donc pour financer nos projets et démontrer les bons résultats environnementaux. Dans le cas, il y a plusieurs projets admissibles. Notre cadre nous permet d'élargir notre base d'investissement, ce qui nous permet d'entrer dans un nouveau marché croissant. Et donc, on peut offrir des produits de dette pour satisfaire les demandes des investisseurs et on peut également satisfaire les objectifs climatiques. Parlons du changement climatique chez PSP. Nous reconnaissons toute la transition économique qui est requise à cause du changement climatique et l'importance de nos actions. Nous savons que le secteur financier a un rôle à jouer relativement à cette transition pour arriver à net zéro mondialement. Cela veut dire qu'il faut investir dans des opportunités qui aident à la transition et nous devons travailler avec des partenaires dans nos compagnies en portefeuille pour réduire les émissions des gaz à effet de serre partout pour notre fonds total. Et ce qui est important aussi, davantage que nous le faisons tout en nous assurant que nous ayons des rendements pour le long terme, ce qui est nécessaire comme revenu pour satisfaire nos mandats. Lors du Jour de la Terre 2022, nous avons lancé la première stratégie climatique, PSP First Climate Strategy. Cette stratégie climatique est disponible et son plan est disponible sur notre site web. Je vous invite à consulter le tout. Nous nous engageons à utiliser notre capital et notre influence afin d'aider à la transition pour arriver à net zéro global d'ici 2050. C'est notre stratégie. Ça veut dire quoi d'utiliser notre capital et notre influence relativement au capital? Comment nous investissons et dans quoi nous investissons? Cela jouera un rôle très important pour notre contribution à toute l'économie, la transition économique qui est requise à cause du changement climatique, ce qui inclut accroître nos investissements dans le vert, faible en contenu carbone, et nous voulons améliorer les actifs qui sont bons pour l'environnement et réduire les investissements qui sont négatifs relativement à l'influence, c'est-à-dire que c'est comment nous générons notre influence relativement aux entreprises dans le portefeuille et nous allons travailler avec nos partenaires, co-investisseurs et nos parties prenantes pour les encourager à réduire leur empreinte de carbone au niveau de leurs opérations, pour les encourager à adopter de bonnes normes de présentation, de rapport, que ce soit transparent et pour la divulgation, par exemple, climatique. Relativement Task Force, groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, TCFD. Alors, nous allons continuer à intégrer les risques climatiques et les opportunités dans la prise de décision et dans les pratiques de gestion d'actifs. Premièrement, deuxièmement, les finances durables et l'investissement climatique, nous avons l'opportunité d'investir afin de réduire l'exposition aux gaz à effet de serre dans notre portefeuille et par extension, bien sûr, en ce qui a trait à l'économie réelle. Nous le ferons en améliorant les investissements dans les actifs verts et tout ce qui va faciliter la transition. Nous allons mettre fin aux investissements qui ne sont pas verts. Et donc, nous allons favoriser la transition, les actifs de transition. Nous allons réduire nos investissements et lorsque cela est requis. Nous avons l'engagement, nous avons également les votes par procuration. Nous allons nous engager et être des défenseurs des bonnes pratiques relativement à nos compagnies en portefeuille pour encourager l'adoption de bonnes pratiques climatiques. Pour la présentation des rapports et les divulgations, nous allons améliorer la solidité et la couverture et nous allons finalement participer dans des initiatives mues par les investisseurs portant sur le changement climatique afin d'améliorer les connaissances et la pratique dans ce secteur très important puisque nous parlons du leadership et de la collaboration relativement aux cibles et nous avons des indicateurs clés. Nous avons établi des objectifs climatiques à court terme pour mesurer notre progrès en termes de dollars et de réduction de gaz à effet de serre. Lorsque nous avons mis en œuvre notre stratégie climatique, on s'attend à réduire l'intensité de nos émissions dans notre portefeuille en termes de gaz à effet de serre d'un 20 à 25 % d'ici la fin de 2026. Et nous avons accompli beaucoup de choses durant l'année fiscale. Nous avons haussé la barre également relativement à notre responsabilité, nos investissements et la finance durable et climatique.
Le temps de le lire. I also want to acknowledge that PSP's results, financial and non-financial, are thanks in large part to our committed and talented employees in our Canadian and global offices. I'm fortunate to have joined a strong performing organization with a solid corporate strategy and an exceptional team. I look forward to
et d'une équipe exceptionnelle. J'ai très hâte de jouer mon rôle pour aider au succès soutenu de PSP. Voilà, cela étant dit, nous vous permettons de poser des questions maintenant. Merci beaucoup, Deborah. J'aimerais réviser certaines règles pour s'assurer que l'on puisse répondre aux questions, utilisez le clavardoir, s'il vous plaît. Merci à ceux qui ont présenté, posé des questions d'avance. You can ask questions in your own language. Both official languages are available. Nous allons mettre l'accent sur l'élément de la question lui-même et pas sur les remarques nécessairement qui viennent avant les questions. Il y a des questions sur des thèmes semblables qui seront agrégées pour s'assurer que l'on ne pose pas la même question à plusieurs reprises. Finalement, relativement à l'identité de ceux qui posent la question, on ne va pas divulguer l'identité ou le nom de l'organisation d'où émanent ces questions. On a plusieurs questions déjà prêtes pour que l'on puisse continuer. Alors, on y va. Question, première question, ça a trait à notre engagement climatique. Pourquoi PSP ne s'est pas engagé à des résultats relatifs au net zéro? Ces commentaires sont difficilement audibles. En tant que PDG de PSP, je dis que je crois que notre stratégie met surtout l'accent sur des cibles à court terme qui vont nous mettre en action. On va s'engager vis-à-vis d'actions qui vont faire la différence. Je vais céder le micro à Edward. Il nous en parlera davantage de la stratégie. Je pense que c'est important de lorsqu'on travaille sur les projets de changement climatique, les stratégies de changement climatique, nous avons pensé à cela depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont été menées parce qu'on pense à OK, 30 ans, c'est beaucoup trop long. On va dire, oui, on va s'engager relativement aux 30 prochaines années, mais ce n'est pas réaliste si vous n'avez pas d'objectif ciblé à très court terme. Donc, on a décidé que c'est plus puissant et authentique de dire, oui, certainement, nous voulons aider à l'effort mondial vers net zéro. Mais en même temps, pour que ce soit efficace, nous devons mettre en œuvre des cibles à court terme. Et ces cibles à court terme nous propulsent dans différentes catégories d'actifs pour aider en ce qui a trait à ce thème très important. Deuxième question, relativement à la taxonomie d'actifs verts, the Green Asset Taxonomy chez PSP. Alors, parlez-nous de cette taxonomie. Comment vous définissez le tout? Les actifs intensifs en carbone, etc. Aidez-nous à mieux comprendre ces définitions afin de comprendre ce qui est impliqué dans ce type d'actifs. L'interprète s'excuse, mais le son est très faible. La taxonomie verte, résultat de notre changement climatique, notre stratégie a fonctionné avant. Et nous pensons que la taxonomie verte ne peut pas juste être une hiérarchie pour savoir combien d'émissions vont mener à des actifs verts foncés et combien vont mener à de très faibles résultats pour une entreprise en termes d'émissions. Nous devions avoir une intention également du côté des entreprises pour pouvoir être plus verts. Et donc, c'est ce qu'on appelle les plans de transition. Et donc, notre taxonomie verte, la Green Taxonomy, est une valeur métrique. D'un côté, vous avez les niveaux d'émissions. De l'autre côté, vous avez l'existence d'un plan de transition. Disons qu'il pourrait y avoir une compagnie, une entreprise qui a des niveaux d'émissions très élevés, mais un plan de transition très clair. Parce que nous allons considérer de fait comme étant une entreprise très verte, l'intention, c'est très important. Et donc, en même temps, Déborah l'a déjà dit, nous avons une entreprise avec des niveaux d'émissions et pas de plan de transition. Et si on ne prend pas le changement climatique au sérieux, on va mourir rapidement dans ces entreprises. Voyez-vous, les actifs de transition, les transition assets, vont aider dans toute cette trajectoire vers le net zéro. Ça va aider. Par exemple, la capture des activités de capture de carbone. Et donc, pour être très honnête, c'est une valeur métrique complexe peut-être, mais ça va faire partie du rapport d'investissement responsable. Mais en présentant cette taxonomie, nous avons attiré beaucoup d'attention de nos pairs, pas juste au Canada, mais à l'international. Ils pensent que cette taxonomie, c'est très intéressant. Je vais essayer de dire également que c'est très important d'inclure dans nos cibles pas juste les investissements verts, mais les investissements de transition, parce qu'on reconnaît là qu'il y a une transition qui doit avoir lieu et que l'on peut utiliser notre capital et notre influence pour aider à toute la transition de l'économie. Merci. Nous avons deux questions relatives à l'immobilier. Première question, PSP, quelle est votre position pour les résidences multifamiliales dans la grande région de Toronto, notamment? Merci. Merci. Donc, le secteur de l'immobilier, le multifamilial, c'est un secteur très important de l'économie canadienne. C'est très vaste en tant que gestionnaire de fonds de pension. Donc, c'est une partie intégrale d'un portefeuille diversifié, d'une approche équilibrée de l'investissement dans l'immobilier. C'est très important. Et donc, en tant que gestionnaire d'investissement, nous avons fait un partenariat avec différents joueurs qui opèrent dans l'industrie afin d'être exposés à l'immobilier lui-même, en termes d'actifs, tandis que la gestion des immeubles, des édifices se fait par ces parties prenantes qui font la gestion opérationnelle. Et on a confiance qu'ils peuvent faire le meilleur travail dans l'industrie au niveau des opérations. Voilà telle a été l'approche au Canada pour le secteur résidentiel immobilier, incluant dans la région du Grand Toronto. Ce qui est très important davantage, c'est qu'il faut être conforme relativement aux règles et aux lois de chacune des provinces là où nous investissons. La conformité doit être là. En Ontario, il y a beaucoup d'éléments de réglementation qui considèrent l'industrie et veulent s'assurer que l'on soit conforme relativement aux règles et aux lois. Donc, les autorités observent le tout. Il y a une question qui a trait à ça. Deuxième volet, relativement à PSP. Bon, on parle des lignes directrices en ce qui a trait aux baux plus élevés, les loyers qui sont plus élevés. Bon, augmentation du prix des loyers. Bon, ça, c'est très réglementé dans la région de Toronto, en Ontario en général. Nous avons investi dans des actifs solides. On a des partenariats avec les meilleurs intervenants opérationnels de l'industrie. Ce que nous faisons à chaque fois, lorsqu'il y a une application de type AGI, lorsqu'on parle du LTB, le Conseil de l'Ontario, l'OLTB, eh bien, on s'assure avec notre partie opérationnelle de réviser très prudemment chacun des éléments qui font partie de la demande AGI et on s'assure essentiellement que trois items soient respectés dans tous les cas. Premièrement, le fait que le calcul de l'AGI lui-même est trait à des améliorations en capital et que tout soit fait en termes de dépenses admissibles selon la loi pour la grande région de Toronto. Et la loi également sur la location d'immeubles, la RTC. RTA, pardon. Et donc, on doit considérer la conservation énergétique, la sécurité de l'immeuble, etc., en termes des lois à satisfaire. Donc, deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'améliorations cosmétiques, esthétiques, aux édifices, aux immeubles, lorsqu'on fait des améliorations, quant à l'expérience des résidents, on s'assure que ces dépenses ne fassent pas partie des calculs AGI. Et donc, ça ne circule pas en termes de l'augmentation de loyer qui correspond. Et finalement, c'est très important, on s'assure que lorsque les GIS sont en place, il faut s'assurer qu'il y ait un programme d'aide financière, que ce soit en place également. Le but étant de permettre aux résidents qui souffrent de difficultés financières qu'ils puissent faire une demande pour participer au programme et pour avoir également une aide relativement à leur loyer. Dans tous les cas, dans la région de l'Ontario, relativement à ce thème, lorsqu'on a une demande d'aide financière, on a trouvé des façons d'offrir de l'aide grâce au programme, soit sous la forme d'aide financière directe ou en passant par le Rent Relief Program, le RRP, le programme d'aide au loyer. Les investissements privés. Alors, est-ce que PSP pourrait parler un peu des investissements privés? Est-ce qu'on veut faire le tout à l'interne ou s'en départir ou comment? Inaudible, soyez, je vais être clair, lorsqu'on parle de la construction de portefeuille et différentes catégories. Il y a un élément très important relativement au rôle des investissements privés. Le but, c'est d'offrir des rendements très élevés pour ces investissements privés comparativement à d'autres fonds. Ça a toujours été le cas. Vous avez vu les chiffres. Ils ont fait un très bon travail. Quant à offrir le rendement qui va nous aider à livrer la marchandise quant à notre mandat. Donc, pour l'avenir, nous avons un environnement qui nous met au défi, c'est certain. Et beaucoup de questions ont été posées. Est-ce que l'investissement privé va performer comme dans le passé? Et les rendements, peut-être, vont être soumis à des pressions un peu. Mais comparativement à toutes les autres catégories d'actifs, les investissements privés ont toujours un rôle très important à jouer. Est-ce qu'on va le faire à l'interne? Maintenant, ça, c'est une question très stratégique. On aimerait faire équipe avec des partenaires stratégiques. Généralement, c'est ce que l'on fait chez PSP. Donc, nous avons des partenaires pour les investissements privés avec qui on fait affaire et on fait une équipe. On ne va jamais se distancier de ce modèle et faire tout nous-mêmes à l'interne. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, mais en considérant les dynamiques du marché qui changent. On va réviser donc la stratégie éventuellement relativement aux investissements privés pour savoir comment mieux se positionner. Relativement aux investissements privés, en ce qui a trait au partenariat de partenaires en investissement privé hautement sophistiqués, il y a une occasion. Une opportunité de par cette propriété active, en quelque sorte, de rajouter de la valeur. Cette valeur ajoutée signifie davantage en ce qui a trait au rendement total dans un environnement à rendement plus faible. En dépit des conditions du marché qui nous mettent au défi et aux défis qui vont venir dans le marché, c'est une composante très importante d'un portefeuille bien diversifié. Question suivante. Le climat. Est-ce que PSP peut émettre un commentaire sur l'achat d'installations pétrolières, gazières et comment cela s'aligne sur la stratégie climatique? Je pense que c'est très clair. Notre stratégie climatique est une stratégie très bien conçue. On ne croit pas vraiment. Bon, si on parle des combustibles fossiles et des entreprises qui émettent des combustibles, qui utilisent des combustibles fossiles, il faut aider ces entreprises à haute émission. C'est ce que je veux dire. Et on va voir si on peut changer le modèle d'affaires pour que ces entreprises deviennent plus vertes plutôt que de s'en débarrasser. On n'a pas de liste limitée. On ne va pas dire, OK, ces entreprises émettent beaucoup, leurs émissions sont très élevées, donc on s'en défait. Non, on ne va pas se défaire d'une compagnie tant qu'il y a une réelle volonté par ces entreprises de devenir des entreprises vertes. Si ces entreprises souhaitent devenir vertes, eh bien, elles entrent dans le plan de transition, donc on ne s'en départira pas. C'est juste que si on voit que les entreprises ne veulent pas vraiment changer, c'est là où l'on va s'en défaire. Et c'est un argument financier également, parce qu'on pense que ces entreprises vont être punies sur le marché relativement à la fixation des prix du point de vue des clients également. Et donc, il y a vraiment un business case, un argumentaire pour nous dire que oui, il faut encore investir dans ces entreprises plutôt que d'opter pour un désinvestissement. Bon, on a l'occasion relativement politique de prendre des décisions individuelles en termes d'investissement pour maximiser les rendements, ce qui inclut l'utilisation de notre capital pour des opportunités qui supportent la transition afin de pouvoir aider. Et donc, on peut utiliser notre influence pour ajouter de la valeur et aider à la transition. Je pense qu'il s'agit de la bonne politique pour notre organisation afin d'offrir des rendements pour le long terme dans un environnement où toute l'économie fait une transition. Deuxième question, pouvez-vous nous donner un exemple? Comment travaillez-vous avec des entreprises pour les aider à opter pour un plan de décarbonisation fondé sur la science? Allez-y. On travaille avec chaque entreprise du portefeuille pour s'assurer que ces entreprises aient un plan en place. Et on regarde le plan et on essaie de voir qu'est-ce qui est faisable pour faire progresser le plan. La première responsabilité ici revient à l'entreprise, le portefeuille, l'équipe de gestion, le conseil d'administration. On doit créer un plan, on doit le mettre en œuvre et faire le suivi. Nous allons utiliser notre influence de par la représentation au conseil pour ces entreprises afin d'établir plus de critères et faire progresser l'ordre du jour. Par exemple, ici, les services publics, Tri-Summit Utilities, qui fait la distribution du gaz. Avec l'entreprise, on a dû se fixer un objectif net zéro. Et on utilise cette entreprise pour faire d'autres acquisitions. C'est le concept même de la plateforme afin de rajouter à notre exposition. Et alors qu'on intègre des filiales dans le mix, dans l'amalgame de titres, eh bien, on s'assure que ces filiales aient un plan qui s'aligne sur le plan maître afin de faire progresser l'ordre du jour vers le net zéro. Voilà cet exemple. Merci pour ce bel exemple. On a une question très technique, peut-être un peu technique. La question, c'est pouvez-vous expliquer la différence entre l'intensité en émission, ce qu'on utilise pour l'engagement climatique, et pourquoi on utilise cela par opposition à la mesure des vraies émissions? Oui, bon. Mesurer l'empreinte de carbone ne veut pas dire grand-chose pour nous. Il s'agit plutôt de l'intensité. C'est lié à une autre variable. Si vous mesurez quelque chose, peu importe, là, ce n'est pas juste pour le climatique, si vous mesurez quoi que ce soit avec des chiffres absolus, vous avez une hiérarchie et vous avez qui pollue plus ou moins. Et cette hiérarchie, ce classement n'est pas valable. Il faut un contraste, il faut comparer avec une autre variable pour voir à quel point une entreprise est vraiment polluante. Et voilà pourquoi nous nous référons à l'intensité. De façon très simple, un portefeuille croissant signifie que vous pouvez avoir une augmentation dans le total de carbone émis, alors que l'intensité va mesurer les choses en comparant les choses, des choses semblables, des pommes avec des pommes. Et ça montre à quel point le portefeuille est intensif en termes de carbone en comparaison à d'autres. C'est l'intensité. Nous n'avons pas d'autres questions, donc pour vous, ceux d'entre vous qui écoutez, si vous voulez rajouter quoi que ce soit, veuillez taper votre question dans le clavardoir, la boîte de dialogue, parce qu'il nous reste à peine quelques minutes. On va leur donner quelques minutes supplémentaires. Alors, relativement à la question climatique, une autre question, est-ce que PSP peut élaborer en ce qui a trait à ces cibles qui portent sur le changement climatique? Oui. Les cibles pour le changement climatique. On parle des cibles à court terme, j'imagine. Cela est relatif à toutes les catégories dont nous avons fait une distinction. D'abord, nous voulons voir plus d'actifs verts faire partie du portefeuille que ce que l'on a actuellement. Nous voulons qu'il y ait plus d'actifs de transition également. C'est peut-être l'élément le plus important en termes de type d'investissement vers la transition. Et donc, c'est une direction différente cependant. Et il y a les désinvestissements de ceux qui ont des émissions, mais qui ne sont pas prêts ou ne veulent pas créer de plan de transition. Essentiellement, nous avons cinq ou six différents objectifs intermédiaires, mais ce n'est pas coulé dans le béton. C'est ce que nous avons créé lors de notre groupe de stratégie sur le changement climatique comme le premier ensemble de cibles. Ce que nous faisons toujours, et on a commencé à le faire, c'est que on est allé chercher le plus d'intelligence du marché portant sur le changement climatique afin d'évaluer les choses, afin de réviser ces cibles chemin faisant. Ce que je vois, c'est que de façon annuelle, on va de fait considérer les cibles et voir ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est opportun pour nous? Et de façon probable, on va ajuster ces cibles. Et plus nous pourrons devenir ambitieux, mieux ce sera. Mais ce qui est clair, c'est que le marché s'améliore, la science relative à tout ça s'améliore, mais il y a beaucoup d'inconnus. La seule façon de bien faire les choses de façon efficace, c'est de combiner l'intelligence de marché, que ça vienne de nos partenaires ou que cela vienne de nos cadres de gestion interne ou du secteur académique, universitaire. On doit combiner le tout pour s'assurer que nos cibles soient bien paramétrées pour être le plus efficace possible. Oui, je suis d'accord. Nous avons été très francs relativement à l'évolution continue des choses en vue de l'avenir. On a été très spécifique relativement à notre stratégie climatique pour déterminer ces cibles à court terme. Cela démontre que nous nous engagerons à passer à l'action. Spécifiquement, nous avons déterminé à 70 milliards d'ici 2026 les cibles selon la ligne de base de 2021, 7,5 milliards d'ici 2026 pour la transition et la réduction d'actifs intensifs en carbone qui n'ont pas de transition, le plan de transition, réduction de donc 50% d'ici 2026. Ce sont des cibles très spécifiques qui démontrent notre engagement à passer à l'action. Du point de vue des investissements, il y a ce que vous avez dit, la nature verte des engagements, les 6 engagements qui sont là, qui vont évoluer sur le fil du temps. Nous allons publier notre rapport d'investissement responsable à chaque année et on va trouver davantage de détails là-dessus pour savoir comment notre réflexion évolue de façon annuelle. En ce qui a trait à nos entreprises dans le portefeuille, il est très important pour nous de pouvoir nous adapter et je pense qu'on a le bon cadre pour pouvoir nous adapter afin de satisfaire nos objectifs qui vont évoluer au fil du temps. Merci. Une question relativement aux investissements privés. Il y a les médias. On parle de la planification de PSP dans les médias financiers où l'on chercherait à se désinvestir en ce qui a trait à l'investissement privé. Pouvez-vous parler de comment on équilibre la prise de décision en ce sens pour maximiser les avenirs en matière d'investissement privé relativement à notre mandat? Oui, je vais vous céder le micro. En tant que fonds mûr, nous considérons toujours un panorama global de notre portefeuille. Et il y a des choses comme l'opportunité de possiblement vendre du LP, donc considérant le portefeuille. Il y a ces activités régulières de gestion de portefeuille, n'est-ce pas? On participe dans ce genre de choses. Oui, pour ajouter à cela, notre proposition de valeur est fondée sur le long terme. Un mélange, un amalgame, un mix d'actifs pour le long terme. Ce que nous avons vu cette année, c'est un événement qu'on n'a jamais vu auparavant, où les marchés publics vont plonger, mais les actifs privés vont demeurer stables relativement parlant. Si on considère le portefeuille actuel à la lumière de l'amalgame d'actifs pour le long terme, on voit qu'il y a une surallocation comme résultat vers les actifs privés. Ça ne doit pas nous alarmer, car nous avons l'horizon des investissements pour le très long terme. Et on ne veut pas que les actifs privés puissent en arriver à une vente de feu relativement aux actifs privés. On ne va pas arriver à faire ça. Et donc, il faut être prudent. Comment ramener l'allocation, la répartition, là où l'on veut, et on explore différentes options pour le faire. Pour ramener les répartitions là où on veut qu'elles soient. Au niveau dynamique, il y a la répartition d'actifs qui nous permet d'avoir des écarts à court terme relativement aux cibles d'actifs qui sont les nôtres. Ces articles sont relatifs au processus que nous avons démarré à l'interne pour essayer de voir ce qui est possible de faire en ce qui a trait aux actifs privés et relativement aux investissements privés. Nous utilisons notre expertise dans les investissements privés pour maximiser les choses, prendre des décisions qui maximisent la valeur lorsqu'on achète et si jamais on décidait de vendre également. Prendre les meilleures décisions. Cela étant dit, je pense que je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va prendre une pause d'une minute pour voir si des questions nous arrivent. Relativement à ces questions posées, je vois toutes vos questions et je vois qu'il y a beaucoup de questions relativement au même thème. Je veux vous rappeler que nous créons une seule question à partir des plusieurs questions portant sur le même thème afin d'économiser du temps. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vois qu'il nous reste quelques minutes pour la session. Peut-être que je peux rendre le micro au nouveau président. Merci beaucoup à mes collègues autour de la table. Merci aux panélistes. Merci de vous être joints à nous. Les investissements de PSP, on va afficher la vidéo sur le site web. Visionnez le tout avant la fin de la semaine. Merci de vous joindre à nous et on a très hâte de vous revoir l'année prochaine à la même heure approximativement ou à la même période. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec nous.